à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler de médiation scientifique et c'est avec vous Nathalie Gobbe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable du pôle recherche au sein du service communication à l'ULB. Ça consiste en quoi ?
Alors, ça consiste en assurer la visibilité de la recherche et de la démarche scientifique auprès du plus grand nombre. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une petite équipe qui passe du temps à partager sur les réseaux sociaux, sur les sites web, en vidéo, en podcast, les productions scientifiques, et qui va également prendre pas mal de contacts avec la presse. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer la promotion, la diffusion, le partage avec le plus grand nombre de ce qui se fait dans nos centres de recherche, de toutes les facultés. Et ensuite, on a également toute une activité qui est celle d'assurer la sensibilisation, l'accompagnement des chercheurs qui ont eux-mêmes envie de communiquer vers le grand public. Et donc, on les aide, on les conseille, on les accompagne dans ce processus, notamment à travers un programme de media training et de formation.
Ok. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, comme l'indique votre ouvrage, communiquer la science au public, c'est vraiment l'idée d'amener le savoir scientifique, universitaire, académique vers le grand public.
C'est bien ça. Donc, ils sortent effectivement des cercles habituels et des milieux scientifiques. Et donc, c'est d'aller vers le grand public ou vers les grands publics, puisque effectivement, dans le titre, je me suis dit, on va le mettre au pluriel, même si c'est intuitivement, c'est pas ce qu'on ferait, parce qu'il y a une diversité de personnes qui sont susceptibles d'entendre, d'écouter, de s'y intéresser. Et en fonction de ces types de personnes, on va avoir une manière de communiquer, une manière de, enfin, des outils, des messages qui vont varier. Et donc, c'était un peu l'idée aussi d'être attentif à qui on parle.
Ok. Alors, est-ce que tous les sujets peuvent être vers le grand public, peuvent être destinés au grand public,
en tout cas, est-ce qu'ils peuvent être partagés, avec le grand public Probablement qu'ils peuvent tous l'être, simplement il faut qu'on choisisse ce qu'on a envie de, enfin ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que c'est évident que si on parle d'un sujet hyper pointu, qui nécessite d'avoir un background immense dans une discipline et d'avoir fait 6 années d'études sur la question, c'est pas ce sujet-là qu'on va partager avec le plus grand public. Par contre, il y a des aspects qui pourront intéresser. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a quelques années, François Englert a été désigné prix Nobel de physique, donc il a obtenu ce prix prestigieux. Et dans les premiers instants, les journalistes ont tous tendu leur micro en leur disant « Ah, expliquez-nous ce que c'est ce boson. Le boson scalaire, c'est quoi ? Expliquez-nous ça en 30 secondes, une minute éventuellement, 3 phrases. » Et c'est évident que c'était impossible. Et c'est évident qu'il ne s'y est pas livré parce que c'était juste mission impossible. Par contre, on pouvait raconter l'histoire d'autres manières. Moi, je l'ai interviewé, je ne sais toujours pas vous expliquer ce qu'est le boson scalaire, etc. Je ferai plus confiance à des profs en physique pour le faire, mais indépendamment de ça, il y a plein de choses à raconter. Pourquoi est-ce qu'on a décerné ce prix 50 ans après la découverte théorique ? Pourquoi ? Enfin, c'est le premier prix Nobel de physique en Belgique. Qu'en est-il ? Comment ça se passait ? Le lien entre cette découverte théorique et les expériences qui étaient faites au CERN, enfin, il y avait moyen de raconter beaucoup d'histoires à travers ça. Et donc, c'est ce que pas mal de journalistes ont fait d'ailleurs. Mais donc, pour répondre à votre question initiale, je pense qu'il y a certains sujets, effectivement, si c'est partager une connaissance pointue avec le plus grand nombre, cette connaissance pointue, on va avoir du mal à la faire passer. Et parfois, c'est assez compliqué, même si certains excellent dans les métaphores, dans plein de techniques pour réussir à partager ça. Ça reste ardu. Et donc, je pense qu'il faut choisir un angle, une approche qui va intéresser. Parce que je dirais qu'au-delà de notre envie de partager, il y a aussi l'envie de savoir... qu'est-ce que mon public a envie d'apprendre ? Qu'est-ce qu'il a envie de savoir ? Donc, je pense qu'il faut aussi garder en tête ça, pas simplement se dire « moi, je veux dire ça », mais se dire « qu'est-ce que les gens à qui je m'adresse ont envie d'entendre ?»
Ça devient un boulot de journaliste, en fait.
C'est un boulot de journaliste. j'ai une formation en journalisme, mais je pense que c'est une formation... En tout cas, c'est vraiment une approche d'interview, de curiosité, de mener. Et quand le chercheur communique, il doit réussir effectivement à partager et donc à traduire. je dirais, ce qu'il a découvert, à le traduire vers un public qui n'est pas dans son microcosme scientifique. Donc oui, c'est un boulot de journaliste, je pense, en partie.
Alors j'ai rigolé au niveau du boson de Higgs parce que c'était la question que j'allais vous poser en fait avec le boson de Higgs en disant est-ce que ça on peut, parce que je me souviens évidemment de ce prix Nobel de physique et en me disant à chaque fois je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que c'est. On a fait des émissions sur Radio Campus d'ailleurs aussi avec une monsieur
Alexandre.
Anglaire et ça, avec Alexandre Weinberg, oui. Et j'avais beau écouter, puis je ne comprends quand même rien. Et voilà, donc je me demandais si tous les sujets étaient. Après, on pourrait l'expliquer autrement, j'imagine.
J'imagine, mais c'est vrai que ça veut dire bah, déjà bien maîtriser le sujet pour réussir après à se dire ok, de cette manière-là, je l'explique, etc. Donc c'est vrai que ça implique de bien le comprendre. Et ça, pour bien le comprendre, il faut déjà avoir un background
Ouais, c'est ça.
Suffisant en sciences et dans la discipline en particulier. Donc ça reste, je pense, un peu une mission compliquée, mais il y a plein d'autres manières d'appréhender et de faire partager une passion, parce qu'en fait, c'est ça qui intéresse aussi, c'est d'expliquer pourquoi la physique c'est important, pourquoi ça nous impacte, pourquoi c'est un moment, merveilleux, pourquoi c'est prestigieux, pourquoi, enfin, il y a plein de choses qu'on
Oui,
peut
bien sûr.
raconter autour de ça.
Alors justement, donc cet ouvrage que vous avez écrit, voilà, donc communiquer la science au public, savoir partager. Donc vous l'avez écrit avec d'autres. Enfin, il y a d'autres. Je sais pas si c'est auteur. En fait, vous avez interviewé. Parce que, allez, on va remettre le contexte. Il y a un podcast qui accompagne. Je sais pas s'il accompagne, mais en tout cas, on est plus dans du transmédia. Donc il y a un podcast qui est également communiquer la science au public. Où là, vous êtes en conversation avec les personnages du. Enfin, les personnages avec les chercheurs du livre. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous voyez, vous, au départ, comment est-ce que vous voyez cette communication, au public?
En fait, au départ, donc j'avais l'envie de faire enfin, ouais, d'écrire. Enfin, je suis journaliste de formation et avec une forte prédisposition à l'écrit au départ. Et donc, j'avais envie, en fait, d'un peu écrire, rassembler une série d'informations, de connaissances, de tips autour de je suis chercheur, je suis chercheuse et j'ai envie de communiquer vers le grand public, on va prendre cette terminologie usuelle, comment je fais, par où je commence, vers quels médias je me tourne, quelles questions je vais me poser, comment je réussis à traduire quelque chose de très pointu, de très précis en quelque chose d'audible par le plus grand nombre, etc. Et donc j'avais envie de remettre tout ça un peu dans le cadre d'un guide. Aussi parce que c'était le résultat de pas mal d'années où j'avais accompagné les chercheurs et où je les avais ponctuellement formés et où j'avais souvent entendu les mêmes questions qui revenaient. Donc je me suis dit, bah, ça serait bien de tout rassembler. Donc ça a été un peu la démarche initiale. Et puis une rencontre avec Émilie Mentz, la directrice des éditions de l'université, m'a amenée en fait à se dire, bah, ok, on y va, on concrétise le projet. Et en même temps, en fait, moi, j'ai une manière de travailler qui est vraiment de la co-construction, ou en tout cas, j'ai appris mon métier aussi en travaillant avec des chercheurs qui m'ont donné des tips, que j'ai pu observer, que j'ai pu accompagner, former, etc. Mais en fait, on s'est nourri mutuellement. Et donc, j'avais envie que ce guide, il reflète aussi ça. Il reflète aussi toutes ces bonnes pratiques qui sont sur le terrain, toutes ces bonnes et parfois mauvaises expériences, parce qu'on tire des leçons de tout, et cet enthousiasme aussi. Donc j'avais envie que ce soit présent. Et donc en fait, j'avais envie de l'écrire en parallèle d'interviews que j'ai faites avec des chercheurs à qui j'ai demandé de me raconter, mais comment tu as fait pour traduire ça, comment tu as fait pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu t'es tourné vers par exemple le podcast ou la bande dessinée, qu'est-ce que tu en as tiré, etc. Donc j'avais une série de pourquoi, comment que je leur ai soumis. Et puis, en même temps, je me disais, mais c'est un peu bête d'aller les rencontrer, de retraduire ça, de paraphraser. Ça serait quand même bien qu'ils partagent leur passion via du son, parce qu'en fait, je trouvais que c'était justement ce qui donnait toute l'émotion, tout le côté expérience vécue, spontanée, que c'était le média optimal. Et donc, je me suis tournée vers un podcast. Et donc, j'ai mené en parallèle l'écriture du guide et l'enregistrement du podcast. avec l'agence des visions. Et donc, on a travaillé sur ça en parallèle. Et le résultat, c'est qu'en fait, chaque chapitre du guide est illustré par une rencontre avec un ou deux chercheurs, parfois un chercheur, un médiateur, une médiatrice ou artiste, qui raconte en fait comment, quelque part, ce chapitre ou cette pratique, ils l'ont, eux, vécu et mis en œuvre. Et donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais que ça s'est mené de concert, l'audio et le texte.
Et donc voilà, ça donne donc un livre et une série de podcasts qui peuvent être totalement indépendants l'un de l'autre. Et on parle de médiation scientifique. Moi, quand je vous entends, j'ai plus l'impression qu'en fait, on pourrait parler de vulgarisation scientifique. C'est la même chose, en fait.
Pour moi, c'est la même chose.
Pas pour tout le monde, peut-être.
En tout cas, c'est-à-dire que moi, encore une fois, je suis une praticienne. Donc, ce que je me dis, c'est que pour moi, c'est du partage de connaissances avec le plus grand nombre ou avec, en dehors de sa sphère, dehors de son réseau scientifique. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est vrai que les mots ont changé, les termes ont changé. La manière de pratiquer a également évolué au fil des siècles. On a initialement pas mal parlé de vulgarisation, puis le terme est devenu péjoratif dans l'esprit de certains parce que vulgarisation était associée à vulgaire, et donc c'est comme s'il y avait ceux qui savent et puis ceux à qui on déverse des connaissances. Donc il y a des mots qui sont moins audibles aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Les pratiques ont évolué aussi, on est plus arrivé dans quelque chose qui était un dialogue, voire parfois une co-construction. Et donc, on a glissé au fur et à mesure des siècles et des années entre vulgarisation, qui était un peu la terminologie initiale, et que les Français utilisent encore pas mal aujourd'hui, je pense, à ce qui est aujourd'hui plutôt de la médiation scientifique et qui est quelque part aussi beaucoup plus dans une relation égalitaire ou en tout cas qui se nourrit de part et d'autre. Voilà, et donc je dirais que pour moi, tout ce qui fait le fil rouge autour de tout ça, c'est cette volonté, c'est cette envie de partager des connaissances ou une démarche, de partager des choses avec des gens qui sont en dehors de notre premier cercle, je dirais, de connaissances.
Alors là, je vais vous demander, mais d'où vient la demande ? Est-ce que c'est une demande des chercheurs que leur recherche soit accessible ? Ou est-ce que c'est aussi une demande du public, finalement, de pouvoir avoir accès à ces recherches ?
Alors, je pense qu'il y a un mélange de plein de choses, et même une troisième dimension qui est celle de, par exemple, des institutions, des pouvoirs publics qui soutiennent la recherche et qui ont envie que ça revienne vers la société, puisque cette recherche, elle est souvent financée par des fonds publics, donc par vous et moi directement. Donc, pour moi, il y a une combinaison. Il y a des chercheurs qui ont envie de raconter au plus grand nombre, qui ont envie de partager ce qu'ils font, qui ont... Et parfois, les objectifs peuvent être multiples. C'est-à-dire, je peux avoir envie parce que ça me plaît juste de voir que la personne a compris, que j'ai en face de moi, que j'ai pu partager quelque chose, etc. Ça peut être parce qu'au dîner de famille, systématiquement, on me demande ce que je fais, et donc je fais, en fait, de la vulgarisation, de la médiation en expliquant ce que je fais. Ça peut être parce que j'ai envie d'amener plus de jeunes à suivre des filières en lien avec ce que j'étudie, et donc je vais vers eux pour leur expliquer des choses. Donc, il y a plein d'objectifs ou de motivations qui peuvent être chez le scientifique ou la scientifique. Et puis, il y en a également du public. Alors, c'est parfois varié, mais il y a une curiosité, il y a une volonté d'apprendre, si on regarde, et à tout âge. Je veux dire, il y a des conférences, parce que ça aussi, c'est de la médiation, des conférences qui sont données tout au long de l'année, il y a des expositions, il y a plein de choses qui ont lieu, et il y a un public qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir, et qui a aussi envie de partager, puisque, comme je disais, on a eu une démarche au départ qui était celle... qui était plus de partager ou de diffuser. Et puis aujourd'hui, on est vraiment dans de la co-création dans beaucoup de cas, y compris en matière de recherche, où on a vraiment de la recherche qui est menée avec des citoyens qui deviennent des co-chercheurs. Donc il y a comme ça une espèce de volonté de découvrir ce savoir, pour certains de lutter contre des fake news, pour d'autres de... Enfin, les motivations, elles sont multiples et variées, et elles sont à différents endroits. Et elles sont également, parfois il y a eu des impulsions, qui sont venues, si je prends l'Europe, ou la politique scientifique fédérale, ou d'autres acteurs qui ont souhaité également que ces travaux scientifiques soit diffusé au-delà de la communauté scientifique et donc soit partagé avec le plus grand nombre.
C'est ça, ça paraît toujours obscur en fait quand on parle de recherche scientifique, universitaire, on a l'impression de ne pas y avoir accès en tant que citoyen lambda pour x ou y raison, et parce que tout simplement, parfois, il faut quand même bien avouer, et d'ailleurs on en parle, vous en parlez dans le podcast, que parfois les titres des thèses, ben voilà, c'est compliqué en fait, ça prend plusieurs lignes et on, voilà, on ne voit pas, il y a un côté obscur en fait, c'est bien de dire ça à l'ULB, hein, mais il y a un côté obscur parfois justement dans cette recherche, il y a moyen alors justement de mettre la lumière dessus et justement de l'adapter alors.
Tout à fait, et bah, si on prend le concours Ma thèse en 180 secondes, c'est un excellent exemple. Et là c'est d'ailleurs amusant parce que dans MT 180, donc le principe c'est... Un doctorant, une doctorante vient présenter sur scène son projet de recherche avec juste une slide, donc pour illustrer, et 180 secondes. C'est très court. Quand vous travaillez pendant 4 ans ou plus sur un sujet de manière hyper précise et qu'on vous demande de venir présenter ça, donc c'est très court. En plus, vous avez face à vous un public qui n'est pas celui auquel vous êtes habitué, et donc vous devez réussir à l'intéresser, le captiver, lui montrer que ça l'implique. Et lui expliquer simplement non seulement ce que vous faites, à quoi ça sert et quel est votre rôle à vous dans ce travail. Et donc c'est amusant parce que MT 180, systématiquement, il commence par donner le titre de la thèse, tel qu'il est déposé, tel qu'il est défendu. Et qui effectivement est un titre pour le moins complexe. Et puis il donne le titre que le chercheur, enfin le doctorant, la doctorante a décidé de donner dans le cadre de MT 180. Et donc déjà là, on voit qu'il y a un exercice extraordinaire de traduction. Moi, j'aime bien le terme traduction, plus que de vulgarisation ou de diffusion. C'est vraiment pour moi de la traduction, c'est-à-dire de prendre en compte les intérêts, les sensibilités des personnes à qui vous vous adressez pour pouvoir rendre intelligible ce que vous avez écrit initialement.
Un homme remonte la bretelle d'autoroute, pousse un caddie et glisse dans la boue. Des quarts de CRS entourent le camp, deux boîtes cassoulet froid pour les enfants. La soupe populaire au parc municipal, vue sur les trottoirs. Pas de boulot, aucun avenir, aucun espoir. La route est bondée ce soir, mais où elle mène, tout le monde le sait. Depuis l'embouteillage, je regarde ces gens. J'attends le son du soulèvement. Le prêtre range sa Bible dans sa poche. Rassemble son courage et sort une clope. Il attend le jour où les derniers seront les premiers. Il traverse les tentes des sans-papiers. Avec leurs allées simples pour la terre promise, leur trou dans le ventre et dans les chemises, dormir à 40 dans les baraquements, se baigner dans l'eau des écoulements. La route est bloquée ce soir, mais où elle-même, je sais. Depuis l'embouteillage, je regarde le campement et je vois le soir du soleil. Quelqu'un flic tabasse un mec. Partout un nouveau-né, un le dauphin. Partout l'homme se conduit comme une bête. Partout quelqu'un se bat, je serai là. Partout quelqu'un cherche un endroit pour vivre. Boulot normal ou juste un cours de main. Partout quelqu'un cherche à être libre. Regarde ses yeux et tu verras les miens. La route est morte ce soir. Et où elle mène, personne ne s'en souvient. Du soulèvement. La route morte ce soir. Où elle-même personne ne s'en souvient. Depuis l'embouteillage, je regarde ces gens. Et j'attends le soir du soulèvement.
C'est intéressant, bah, ma thèse en 180 secondes, ça fait quelques années que ça fait longtemps maintenant, une vingtaine d'années, je pense que ça existe.
Je pense, ils ont fait un anniversaire l'année dernière, mais j'ai un doute sur En tout cas, ça fait quelques éditions, on va dire.
Voilà, et est-ce que c'est une demande actuelle de pouvoir partager sa recherche au plus grand nombre, à tous les publics, parce que je revenais avec mon idée de c'est obscur et ça reste un peu dans les murs de l'université. Est-ce que c'est une nouvelle demande, en fait, de pouvoir partager? Est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, ou est-ce que ça a toujours existé, mais on n'a peut-être pas les moyens, on n'a pas réfléchi aux moyens?
Alors, je pense que ça existe depuis très, 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 très longtemps. Ce qui change peut-être, c'est que si je prends, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la communication recherche à l'ULB. Si je prends ce qui a changé, c'est quand j'ai commencé, quelque part, j'avais expliqué et convaincre parfois les chercheurs de la pertinence et du fait qu'ils n'allaient pas se discréditer auprès d'autres scientifiques s'ils faisaient, etc. Donc, il y avait une forme de sensibilisation sur pourquoi le faire. Aujourd'hui, je ne dois plus faire ça. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans le comment on fait. Donc il n'y a plus du tout cette étape de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est mon rôle ou pas. On est beaucoup plus dans OK, on y va, comment on fait. Ça. Donc je pense qu'il y a comme ça quelque chose qui s'est répandu, qui est lié aussi probablement au fait que tout va beaucoup plus vite maintenant. Tout le monde peut prendre aussi la parole sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et donc il y a comme ça une espèce de prise de parole de plus en plus, et peut-être qu'un certain nombre de scientifiques sentent le besoin, l'urgence d'exprimer une parole scientifique, de donner ce que c'est qu'une démarche scientifique, ce que c'est qu'un processus, parce que je pense que au-delà des résultats d'une recherche, au-delà de qu'est-ce que j'étudie, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, il y a aussi expliquer ce que c'est qu'un processus. C'est ce qu'on a vu pendant la pandémie et puis la période de vaccination, etc. C'est que c'est un processus qui est fait d'essais, d'erreurs, d'avancées, de nuances. Donc il y a comme ça tout un processus. Là où parfois on aimerait avoir juste c'est blanc ou c'est noir, c'est OK ou c'est pas. Et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, je pense que de plus en plus de scientifiques sont conscients que c'est important d'apporter de la nuance dans le discours et d'apporter aussi à chacun des citoyens, des citoyennes, des outils, des éléments pour qu'il puisse lui-même se faire son propre avis. Donc l'idée, ce n'est pas du tout d'arriver avec une recette prête à l'emploi, c'est plutôt de donner des références, des outils, des sources, des manières de, pour qu'après chacun, il a un petit background et puis il décide en fait, et il prend attitude par rapport à des enjeux de société. Donc c'est vrai que ça s'entend, ça se ressent beaucoup. Je crois que plus on implique les citoyens dans les décisions aussi, plus l'importance de le faire apparaît. Si je prends, donc je travaille pas mal avec l'Université de Lausanne, mais en Suisse, ils ont par exemple ce processus de votation qui fait que régulièrement, sur des questions de société importante, on demande l'avis des citoyens qui n'ont pas toujours en fait les éléments pour pouvoir prendre attitude, etc. Donc par exemple là-bas, c'est hyper important de pouvoir partager les connaissances pour que chacun puisse se sentir équipé en fait pour pouvoir prendre attitude.
C'est intéressant ça. Mais le système de votation, en fait, c'est quand même à cause de ça aussi que les femmes ont voté très tardivement en Suisse, cela dit. Donc s'il y avait une plus grande pédagogie autour de ça, ça aurait été bien. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors vous parliez de co-création justement, co-création avec des citoyens, mais je pense aussi que, enfin dans le podcast en tout cas, il y a aussi avec des artistes.
Donc, il y a effectivement pas mal de chercheurs maintenant et de chercheuses qui mènent des projets avec un ou une artiste. En fait, et alors le mot artiste, il peut être compris de manière très très large. Voilà, moi c'est vrai qu'au début, par exemple, quand j'ai vu, ils font une bande dessinée, pour moi c'était un média, ils produisent un média. Mais c'est aussi une œuvre d'art, ou en tout cas sans mettre nécessairement, c'est un objet artistique. Et donc il y a plein de choses comme ça qui sont des formats, un podcast, ça peut être aussi un objet artistique. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que on peut avoir en fait envie de travailler avec un artiste pour apporter une dimension supplémentaire, pour apporter une manière de traduire les choses différentes, pour mettre peut-être plus d'émotion, de mettre de sensibilité ou simplement d'avoir un regard plus décalé. En fait, ce qui est important, je pense, quand on fait de la médiation ou du partage de connaissances, c'est d'oser se décaler. Mmh. Et donc, c'est oser sortir de sa manière d'être habituelle parce qu'on s'adresse à d'autres publics et parce qu'on va raconter d'autres choses. Et donc, quand on se décale, parfois, c'est plus simple si on le fait avec quelqu'un d'autre qui nous entraîne dans cette espèce de décalage. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui sont menés, tantôt avec... Il y a une chercheuse, par exemple, une doctorante qui a réalisé une bande dessinée sur les renards à Bruxelles et qui a travaillé, en fait, avec un illustrateur qui était quelqu'un qu'elle connaissait depuis l'UNIF et avec qui elle s'entend super bien. Et donc, ils ont mené ce projet ensemble. Et en fait, elle racontait ô combien sa manière de raconter au départ était hyper descriptive, analytique, ce genre de choses, et ô combien à l'arrivée de l'illustrateur lui avait permis de mettre en récit en fait son histoire et d'avoir une approche beaucoup plus plus riche en fait. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait de travailler avec, on n'a pas tous des aptitudes artistiques, on n'a pas nécessairement non plus le temps, la disponibilité, etc. Et donc je pense que le fait de travailler avec quelqu'un qui a ce regard différent, cette approche différente, ça vous remet en question un petit peu, ça vous permet de lire les choses différemment. Et de ce que j'ai entendu en tout cas, notamment à travers les podcasts, c'est, me disait un des chercheurs qui a travaillé avec la structure HOME, qui fait pas mal d'événements, de scénographie, d'expression, de traduction à travers l'art de connaissances scientifiques, eh bien lui, il me disait, pour lui, ça a été une véritable bouffée d'air frais. Et je pense que c'est ça aussi, et que ça peut être hyper formatif aussi pour le chercheur, parce qu'on parlait de la motivation, de qu'est-ce qui fait que, mais je crois que ça lui amène aussi à voir sa recherche différemment quand il est passé par un processus où il l'a partagé avec d'autres personnes, et où parfois il y a des déclics qui se font, où il y a des manières d'appréhender les choses qui changent.
Et d'ailleurs, il y a la chercheuse avec les renards à Bruxelles qui disait qu'il devait y avoir un... Elle ne le dit pas comme ça, mais moi je l'ai compris comme ça, comme une sorte de lâcher-prise aussi de sa recherche, que finalement elle n'a plus tout à fait la main dessus. Enfin, si, elle a la main dessus, mais dans son expression, ça, il faut lâcher prise, quoi.
Ouais, c'est ça, il faut effectivement accepter... de se dire, tiens, ouais, je lâche prise. Ce qu'on doit déjà faire dans plein de circonstances, quand vous parlez, vous donnez une interview, c'est évident qu'entre ce que vous dites au journaliste et ce qu'il va retenir, il va avoir un décalage. Et donc ça, il faut l'accepter parce que chacun a son métier.
Moi,
et
je
le journaliste.
Rien.
Dommage, parfois.
De toute façon, si vous voulez que je coupe certaines choses, mais on s'arrangera après.
Oui, c'est ça, on verra. mais c'est vrai que parfois vous donnez une interview d'une demi-heure et puis après, c'est trois phrases dans le journal, donc c'est hyper frustrant. Et en plus, ce qui frustre souvent beaucoup de scientifiques, c'est non seulement de se dire qu'il n'a pas retenu ce que moi je considérais comme essentiel, mais en plus, mes collègues vont pas apprécier parce que c'est un peu raccourci ce qu'il a dit. Mmh. Et donc, toute cette dimension, effectivement, d'accepter qu'on ne s'adresse pas à ses collègues, on est en train de faire quelque chose pour un autre public et que les interlocuteurs avec lesquels on travaille, que ce soit un journaliste, que ce soit un illustrateur, que ce soit un conteur, puisqu'on a également une chercheuse qui a travaillé avec un atelier de contes, la maison du conte de Charleroi. Il faut accepter en fait qu'on est dans un format différent, et donc effectivement, il faut lâcher prise, il faut accepter que les choses ne soient pas dites comme nous on les aurait dites, parce que sinon, ça ne sert à rien de vouloir faire de la médiation. Et il faut accepter aussi, et ça c'est souvent une des choses les plus difficiles, de ne pas tout dire. Parce qu'on a un peu comme ça, naturellement, cette envie d'être exhaustif ou d'être le plus précis et le plus complet possible, et en fait, c'est pas vraiment le but. Et de toute façon, ça ne sert à rien de dire si les gens n'entendent pas. Or, le temps de concentration, il est limité. Donc, on parle du popcorn brain, qui est effectivement ce côté de... aujourd'hui, de plus en plus, le temps de concentration est limité. On passe d'une idée à l'autre et ça doit aller très vite. Mmh. Et donc, ça veut dire que si vous arrivez à quelque chose qui est trop développé, trop nuancé... il va falloir trouver des manières de garder l'attention continue. Et donc il va falloir relancer l'attention, etc. Et ça, y a des gens dans ce métier ou qui peuvent être des facilitateurs pour ça.
Voilà. Et donc les supports sont divers aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui parce que j'ai l'impression que la recherche scientifique n'a pas toujours été transposée en bande dessinée ou en podcast. Alors, on parle beaucoup de bande dessinée, on a parlé de bande dessinée, de podcast. Il y a d'autres supports comme ça que vous avez en tête
Oui, c'est vrai que le podcast se développe pas mal. Donc ça, il y a pas mal de choses qui sont faites dans ce créneau-là. Il y a des performances musicales. On a un astrophysicien qui travaille sur des compositions sonores pour traduire des phénomènes et il fait des conférences astromusicales. Donc là, on est dans le domaine plus du spectacle. On a des spectacles audiovisuels, on a des expositions qui ont toujours existé mais qui maintenant sont de plus en plus enrichies de multimédia ou de choses comme ça.
Il y en avait une il y a quelques années sur des micro-organismes, je ne sais plus quoi, qui se développaient. Et c'était un truc hyper scientifique et qui avait été tourné en exposition artistique.
C'était probablement sur les rotifères.
C'est ça. Voilà. Merci. Voilà.
Effectivement. Et donc là, c'est effectivement un exemple d'une recherche qui est menée scientifique pointue sur ce micro-organisme qui, je pense, est le plus petit d'ailleurs existant et qui a effectivement plein de caractéristiques très, très particulières.
Et un nom bizarre, d'ailleurs, rotifère.
Voilà. mais qui, effectivement... Et là, je pense que la chercheuse avait travaillé avec une résidence d'artiste. Et donc, on est vraiment arrivé à un projet artistique. Et donc, ça, c'est une dimension qui se développe beaucoup, qui est celle de ces binômes ou de ces collaborations entre scientifiques et artistes. Où finalement, on a parfois tendance à être manichéen et à se dire le scientifique est rationnel, l'artiste est plus émotionnel, etc. Et en fait, on se rend compte que quand ils se combinent, non, parce qu'ils ont tous de la créativité, ils ont tous une curiosité, ils ont tous cette originalité, etc. Donc finalement, ça matche souvent assez bien. Donc ça, c'est vraiment tout un volet qui se développe beaucoup. Et puis, y a les réseaux sociaux aussi qui se développent, qui continuent leur chemin tel quel. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui se font sur Instagram, sur d'autres. Donc, je crois qu'il y a autant Enfin, ça ne peut que s'enrichir, en fait. Donc, il y a autant de médias qui peuvent être explorés ou de formats qu'il y a d'imagination, de créativité, de volonté et qu'il y a d'intérêt pour un public, enfin, d'un public pour ça.
Et d'autant plus avec donc les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Alors, en effet, c'est peut-être plus simple aussi, peut-être, de pouvoir produire quelque chose qui va être plus facilement partagé et diffuser à tout le monde, puisque finalement, en effet, les réseaux sociaux, on va vite... Et on voit d'ailleurs déjà aujourd'hui, au niveau de la... Je vais parler de vulgarisation scientifique à ce niveau-ci, des émissions, enfin, des influenceurs comme Hugo Décrypte, je ne sais pas
oui.
si vous connaissez.
Oui, tout à fait.
Bah voilà, qui font quand même... Ça, sur l'actualité, c'est un peu différent. Mais donc, il y a une recherche du public.
Oui, je pense que... Je pense qu'il y a une grande diversité... Mais que c'est pas parce qu'on fait qu'on a nécessairement une audience.
Ah et ben donc,
voilà, ça c'est parfois un peu frustrant. Et donc c'est vrai que, bah voilà, moi un des conseils que je donne toujours, c'est de se dire, mais avant de vous lancer dans une action, parce que souvent, et on est tous comme ça en fait, on commence par se dire, j'ai envie de faire une expo, j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie de faire ça. Et donc on voit effectivement ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et on se pose pas les questions en amont de ça, qui sont, mais quel est mon objectif? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Quel est mon public cible, à qui j'ai envie de m'adresser, pour qui je fais ça, et quels sont mes moyens, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'outils disponibles, etc., mais produire, enfin, si on prend Hugo Décrypte, c'est devenu une petite entreprise avec plein de gens qui produisent, etc., et donc c'est vraiment des machines. Si on veut être présent sur les réseaux sociaux, ben, il faut une régularité, il faut des choses qui se démarquent, il faut une qualité. Donc c'est pas nécessairement juste se dire je poste quelque chose et paf, tout le monde va le suivre. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est intéressant en amont, avant de se lancer dans une action, de prendre le temps de se dire ok, d'accord, j'ai envie de faire quelque chose, mais pourquoi, vers qui et avec quels moyens, combien de temps j'y dispose, est-ce que j'ai un budget, est-ce que je peux me faire aider, etc. Et puis souvent, bah, de quoi j'ai envie, parce que c'est vrai que moi ce que je vous ai vu à travers les années, et ici, notamment via le podcast, ça s'entend très fort, enfin j'espère, c'est une passion. Mmh. C'est que les gens qui font ça, les chercheurs, les chercheuses qui se sont lancés dans une action de médiation, ils ont aimé ça, ils ont adoré ça, ils ont appris des choses, ils ont partagé, ils ont découvert, etc. Et donc ça, je pense que c'est essentiel. Si on le fait sans être soi-même convaincu, ben, ça ne peut pas fonctionner. Voilà.
C'est là où vous intervenez, vous intervenez auprès des chercheurs, vous leur donnez justement, il y a moyen qu'ils prennent rendez-vous avec vous et que les choses, ça se passe comme ça en fait.
Oui, ils peuvent en fait effectivement, ils nous envoient un mail en se disant, voilà, moi j'ai un projet, mais j'aimerais en discuter avec vous. Donc on a effectivement dans notre mission l'idée de sensibiliser et de conseiller, et puis dans un second temps de former. Alors former, on fait ça avec des moyens très limités, donc on n'a pas une offre, un catalogue de formation sur mesure, mais ponctuellement on organise donc avec l'Université de Lausanne, on organise chaque année une Autumn School, donc deux journées de formation à différentes techniques, différents formats, etc. Et puis plus ponctuellement, on peut imaginer mettre en place un module, une formation, une sensibilisation. Et alors on a du matériel également, on a un petit studio, on a des équipements audiovisuels, etc., qui peuvent être empruntés. Donc on a de quoi accompagner, conseiller, et aussi un réseau de professionnels qui peuvent, eux, venir, puisque ça reste des métiers à part entière. Donc c'est vrai que nous, on apporte ça. Il y a d'autres services dans l'université qui apportent aussi, si je prends... ce qui peut être intéressant parfois aussi, c'est de s'insérer dans une initiative existante. Plutôt que de se dire « je vais mettre en place quelque chose moi tout seul », ça peut être intéressant de s'inscrire dans quelque chose qui existe. Le podcast, par exemple, il y a des gens qui ont lancé un podcast et puis qu'à un moment donné se dire pour un épisode, j'inviterais bien un collègue à mener l'entretien, etc. Donc ça peut être une bonne occasion. Et nous, parfois, on a connaissance de ça. Les événements, c'est évident qu'il y a dans l'université beaucoup d'acteurs de médiation scientifique qui en organisent. Et donc, des structures comme InfoScience ou comme d'autres sont là aussi pour accompagner, pour conseiller, pour inscrire votre activité dans un programme plus large. Donc je pense que ça vaut le coup, en tout cas, de se dire, avant de se lancer, je vais en parler et je vais voir si, d'une manière ou d'une autre, en fait, ça peut, on peut m'aider. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui nous arrivent prêtes à l'emploi et qui sont juste top. Et donc, on se dit là, on n'aurait pas pu apporter mieux. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus, et ça, c'est probablement lié à ce que vous évoquiez, qui est l'accès à beaucoup de médias, l'accès, la manière de consommer aussi. Les chercheurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'avant en matière de consommation médiatique et autres. Et donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent et qui sont vraiment très, très qualitatives.
Ben voilà, donc il y a une belle aventure là derrière. Et puis un peu, en fait, on fait un peu la même chose, histoire de savoir. Enfin, ouais. Nous aussi, on essaye à notre échelle, évidemment, de pouvoir donner la parole aux scientifiques, aux, en tout cas aux chercheurs de l'ULB. Et là, c'est un exercice sur une trentaine de minutes de pouvoir expliquer. Mais parfois, ils nous disent aussi que c'est intéressant de devoir expliquer leur recherche avec des questions en face où, en fait, on essaye de se mettre... Alors, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais au niveau de l'auditeur, parce qu'évidemment, nous, on prépare les émissions, on lit énormément, et puis en fait, on pose les questions comme si on n'avait pas lu. Donc, c'est aussi un exercice intéressant. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Nathalie Gobe, d'être venue nous parler de Communiquer la science au public. C'est donc un ouvrage qui est sorti aux éditions de l'Université de Bruxelles. Et puis également, donc, le podcast qui s'appelle Savoir partager, qu'on retrouve sur toutes les plateformes de podcast, d'ailleurs. Et avec tous les autres podcasts de l'ULB, parce que je n'avais pas remarqué, mais il y en a quand même pas mal.
Il y en a pas mal qui sont vraiment réalisés de A à Z, ou de la première seconde à la dernière, par des scientifiques de l'université. Donc, et qui sont des petits bijoux hyper agréables à écouter. Donc, je pense que ça vaut le coup effectivement d'aller un peu se balader sur ULB Podcast.
Voilà, et donc le vôtre, il est en 8 épisodes. Ouais. Oui, je ne sais pas si on dit épisode. Oui, si. En 8 épisodes, avec chaque fois des artistes, non, des chercheurs, qu'on a d'ailleurs souvent déjà reçus ici. On parle d'Elvie Gorten, par exemple. Il y a Marius Renard aussi.
Marius Gilbert, qui n'a rien à voir avec les renards. Mais il y a une chercheuse qui a travaillé sur les renards.
Donc... Voilà, Marius Gilbert. Donc Marius Gilbert qui préface aussi le livre. Donc voilà, donc c'est toute une série... de chercheurs et de chercheuses sur plein de sujets, en fait, par rapport à leur recherche. Voilà, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé cela. Et bah, une très prochaine fois, j'imagine.
Avec plaisir. Merci, voilà. En tout cas, pour ce superbe accueil. À bientôt.
À bientôt, au revoir.